Le jour où on m'a dit, va falloir faire tout seul. J'ai d'abord fait la gueule, puis j'ai ri de ma gueule. Tous ces mots qui dégueulent, ça fait une drôle de barre, va enraser les murs. Au début, pas trop sûr, un moment, faut y aller. Au milieu de la rue, y'a plus à hésiter. Le trottoir est de marbre de l'autre côté. Le jour où j'ai failli retourner dans la tombe, le temps était aux bombes et je les ai bravés. Les gens étaient en ombre à guetter ma rechute. Nous ne mettions que des ombres devant le même but. Dans les ruelles sombres et dans les bars à putes. Au milieu des décombres et des bêtes en rut. Le jour où j'ai failli m'imaginer poète. Je n'étais moi aussi après tout qu'une bête. Mais j'ai tenté le jeu et me suis entêté pour en toute fin de compte ne plus rien regretter. Le jour où j'ai failli détourner mon regard, c'était presque trop tard et pourtant j'ai tenu. Je me suis accroché à cet instant ténu. Je n'ai pas regretté de m'être un jour battu. Le jour où j'ai pleuré, je n'ai pas oublié, je m'en suis souvenu. C'était si surprenant, c'était tant incongru. Et le pire, c'est qu'aujourd'hui, je ne saurais même pas dire d'où ça m'était venu. Le jour où j'ai gagné, le jour où j'ai perdu.
Monsieur Roland Bolide allemand, 130 000. Travaille dans une banque du centre-ville et tu l'auras compris, le bureau de monsieur n'est pas au rez-de-chaussée, le bureau de monsieur est en hauteur. Costume sur mesure, 4000. Il en impose dans les couloirs, parfaitement corporate. Un bel exemple de réussite, monsieur s'est fait tout seul, a bien placé ses billes et ne s'en cache pas. C'est d'ailleurs son histoire préférée. Monsieur a l'arrogance des nouveaux riches, mais dans son nouveau milieu, ça passe bien. Ça passe pour de l'ambition, il n'y a rien de mal à ça. Oh non, bien au contraire. Monsieur Flambe a le teint allé en toute saison, il a la forme et s'entraîne au meilleur club de la ville. 30 000 à l'année, hors frais de fonctionnement, il en est actionnaire et voit ça comme une petite consécration.
20h02 sur Radio G tout de suite, c'est l'occasion de retrouver votre émission sportive de la grille. Tout de suite, c'est Génération Sport. Bonsoir à tous, c'est ravi de vous retrouver pour cette nouvelle émission de Génération Sport. On est très ravi de vous retrouver en ce mardi soir, mardi 12 décembre 2023. Une belle émission qui s'annonce avec beaucoup de programmes. Alors ce sera une émission talk, on va revenir plus en détail sur toutes les actualités locales et internationales. Il y a pas mal de choses à dire sur tous les sujets. Avant ça, évidemment, je vais présenter ceux qui m'accompagnent aujourd'hui dans les studios. À ma gauche, Faustin qui est là. Salut Faustin, comment ça va?
Salut Alex et tout le monde, ça va super bien. J'ai passé un super week-end rempli de victoires pour mon club. Que ce soit les SFUN, dont je reparlerai tout à l'heure.
Oui.
Et mon équipe, on s'est qualifié pour le tournoi pour essayer de rejoindre le championnat régional.
Une fois de plus, voilà. Comme l'année dernière j'ai envie de dire.
Exactement.
Et tu rejoues du coup ou pas depuis?
Non, toujours pas.
Peut-être en 2024?
Sûrement, j'espère en tout cas.
On te le souhaite en tout cas.
Merci.
J'espère que ça va bien se passer. Clément était également avec nous. Salut Clément, comment ça va?
Salut Alex, salut à tous. Moi, le week-end a été un peu moins glorieux puisque même si on a arraché, enfin pas arraché parce que on gagnait 3-0 et à 4 minutes de la fin, on s'est fait rattraper.
Mais non.
Trois partout.
Oh la remontada.
Carton rouge pour notre gardien. Le match a fini en n'importe quoi.
Oh là là là.
Et c'était le match de la montée. Enfin, on aurait pu monter à partir de ce week-end. Bon, on a un match ce week-end là pour se rattraper. On a juste à gagner pour monter en région. Donc,
grosse frustration ce week-end pour toi. Bon, écoute, on parlera d'actualité foot un peu plus peut-être luisante dans cette émission. Et également, enfin, Cédric est avec nous. Salut Cédric, comment ça va?
Bah écoute, ça va plutôt bien.
Un bon week-end toi aussi?
Ouais, c'était surtout du repos.
Ouais.
Pas trop de sport cette semaine et ce week-end.
C'est important de se reposer.
On a regardé deux, trois petits trucs. Dont une chose qu'on parlera ce soir qui aurait pu être sur le papier intéressant. Puis au final, J'ai envie de dire, c'est comme un mauvais gâteau, c'est retombé.
Exactement. Tu parles peut-être d'un certain combat de boxe.
Voilà.
Impliquant un Français. Bon, on va déjà un petit peu teaser cette émission avec ce combat de Tony Yoka. On va revenir d'abord sur le sommaire avec, dans un premier temps, les actus locales. Il y a pas mal de choses à dire puisque on va revenir un peu sur la très bonne forme du SCO, le SCO qui est leader de Ligue 2, et oui, depuis une semaine maintenant, les Angevins qui sont très 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 bien placés pour la montée. On va pas s'enflammer, mais toujours quand même, c'est toujours important de le dire. Ensuite, on reviendra sur l'Open P2I, vous le savez, c'est ce tournoi tennis féminin qui s'est déroulé à l'Arena Loire de Trélazé la semaine dernière. Et puis, on parlera aussi un peu de basket avec Faustin. On fera un point sur les différentes équipes du département et également notamment l'UFAB hein, qui a fait une très belle performance ce week-end contre Flamme Carolo. Sur les actus internationales, on reviendra sur le football. On suivra pendant cette émission en direct le résultat de Lens qui joue en ce moment contre Séville pour se qualifier pour la Ligue Europa. On reviendra peut-être aussi sur le match de demain entre PSG et Dortmund, un match décisif évidemment. Et puis sinon, le reste, les actus classiques, le hand, le basket et un petit peu un petit mot de rugby. Et comme on le disait, Cédric, tu vas nous faire un petit débrief entre guillemets.
On va déjà casser les règles.
Qu'est-ce qu'il y a?
Fil rouge.
Fil rouge.
Qui dit fil rouge dit but.
Eh oui, but.
But de Lens.
But à Lens.
À la 63e
sur penalty. Le but du Polonais Frankowski. Voilà, donc Lens qui part très bien pour se qualifier pour la Ligue Europa. Sur la fin d'émission également, on aura un petit débat autour des Jeux Olympiques de Paris 2024. On avait déjà eu un peu ce débat sur qu'est-ce qu'on doit faire par rapport justement à cette réintégration des athlètes russes et biélorusses sous bannière neutre, sous leur drapeau. Et finalement, c'est tombé cette semaine. C'est le CIO qui s'est prononcé en faveur de la réintégration sous bannière neutre de ces athlètes-là. Et on reviendra sur cette décision et on verra un petit peu ce qui va se passer sur cet été avec ces Jeux. Peut-être que, parce que ça reste notre fil rouge, évidemment, les Jeux Olympiques de Paris 2024, qu'on espère suivre avec vous, chers auditeurs. Et puis, voilà, il y a pas mal de sujets qui reviendront tout au long de la saison. Voilà pour le programme qui va être très chargé. On va commencer du coup sans plus tarder avec le SCO. Alors que la trêve hivernale arrive à grands pas, le SCO a frappé fort la semaine dernière en se plaçant à la première place du championnat de Ligue 2. Mardi dernier, les Angevins recevaient Grenoble dans un match entre deux prétendants à la montée. Dans une rencontre maîtrisée, la délivrance est venue de l'inévitable Loïs Diony, le meilleur buteur angevin qui s'est régalé dans la surface de réparation grenobloise en inscrivant son 8e but de la saison. Et il a été d'ailleurs aujourd'hui élu meilleur joueur du mois de novembre. Contrairement à la saison dernière et à certains matchs de cette saison, le SCO a fait preuve de solidité défensive pour ne pas permettre à Grenoble de revenir dans la partie. Avec cette nouvelle victoire combinée à la défaite de Laval à Ajaccio, le club angevin monte à la première marche du podium à deux journées de la trêve. Les ambitions en Ligue 2 sont là, celles en Coupe de France ont failli passer à la trappe. Samedi après-midi, sur une pelouse assez difficile, les Angevins ont peiné pour éliminer le club de Plessis-Robinson qui évolue en R1. Mené au score dès la 4e minute de jeu, les hommes d'Alexandre Dujeu vont égaliser grâce à Ibrahim Agnan avant le but de la délivrance d'Adrien Hunou à la 78e. Au prochain tour, le SCO jouera une équipe bien supérieure puisqu'il se déplacera en Bretagne pour y défier le Stade Brestois. Messieurs, incroyable, le SCO leader. On n'a pas dit ça depuis très longtemps, je pense. Mais voilà, Angers est désormais donc leader de Ligue 2. C'est assez exceptionnel, hein, on s'y attendait pas. Ouais. Il reste du chemin. Alors, quand je dis on s'attendait pas, évidemment, je fais pas référence à Cédric qui nous voyait dans le top 10. Bah, du coup, t'as raison.
J'avais dit qu'il y avait moyen qu'on soit dans le top 10. Ouais.
Mais tu disais que c'était déjà bien si on était dans le top 10.
Oui.
Peut-être que le reste de la table
était un peu. Je pensais pas que ça allait quand même.
C'est ça.
Remonter aussi vite, surtout au vu de la saison précédente. Mais non, du coup, Ça, mais je pense que ça a donné tort à beaucoup de personnes.
Oui,
au final.
Je pense que oui, je suis d'accord.
Le début de saison, quand même compliqué.
On peut dire objectivement que c'est assez inattendu, comme.
C'est, ouais. Bon, ce qui prouve qu'il y a peut-être des choses qui ont bien changé au score.
Ouais.
Là, ce qui fait un petit peu peur, entre parenthèses, c'est qu'on va arriver à la trêve, va avoir la coupure.
Ouais.
Derrière, va avoir la CAN.
Ouais, peut-être deux, trois joueurs.
On aura peut-être deux, trois joueurs qui vont.
Je sais pas.
Ntunji, sûrement, en défense centrale, qui va aller jouer pour le Gabon.
Le Bénin, peut-être.
Le Bénin, c'est ça.
Mais, bon, après, Ntunji. Cette saison, il est un peu mieux. Non,
oui,
c'est vrai.
Quand même titulaire. Titulaire, c'est ça.
Mais bon.
En tout cas, voilà, c'est des petites choses qui peuvent dérégler une équipe.
Oui.
Donc, je pense, faudra être solide à la reprise et continuer d'engranger des points un maximum. Et bon, logiquement, le SCO est sauvé, en tout cas, cette saison.
Ah bah ça, oui,
pour le maintien, ça, c'est au moins déjà acté.
Oui, bien sûr. Non, mais messieurs, Faustin et Clément, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que cette première place, c'est un indice fort pour montrer les ambitions du SCO?
Ah bah, je pense que là, clairement, on envoie un message. Hein. Pas grand monde nous attendait là, hein, j'imagine. Même ouais. Bah, nous, les premiers,
même les supporters du SCO ne s'y attendaient pas.
Ouais, c'est ça. En plus, bah, justement, les supporters, ils reviennent pas mal dans le stade. Ça fait plaisir à voir aussi. Mais ouais, on envoie un message qu'on veut toujours rester au top, qu'on l'est, parce qu'on est premier, c'est pas rien. Et puis, on met les Lavallois deuxième aussi, et ça fait plaisir.
Ça fait toujours plaisir, évidemment. Mais surtout, les Lavallois qui sont aussi une surprise. Et je pense que plus globalement, si on veut regarder un peu le championnat de Ligue 2, il y a beaucoup de surprises qui s'accumulent avec Saint-Etienne qui l'a encore séparé de son entraîneur, qui est pas forcément bien. Bordeaux, pareil, qui est en difficulté. Et il y a pas mal de même camp aussi qui était un prétendant et qui finalement est dans le milieu de tableau. Donc voilà, Laval, Angers, c'est pas des clubs qu'on attendait. Il y a Pau qui est par exemple cinquième.
Grenoble aussi qui est au
Grenoble qui est souvent dans ces places-là, mais c'est vrai que bon, il faut continuer. Il faut trouver de la continuité là-dedans, mais, c'est un championnat de Ligue 2 qui est intéressant cette année.
Laval, c'est surprenant, oui et non, parce que tu vois que c'est
il jouait le maintien l'année dernière.
Oui, c'est ça. Ouais, mais sauf sur la dernière journée.
C'est le travail aussi qui est en amont depuis qu'ils sont en Ligue 2 qui commence à payer, tu vois.
Ouais, peut-être. Bah, peut-être pas, enfin, je veux dire, je vois ce que tu veux dire, mais la première place pendant longtemps, c'était peut-être pas non plus.
Non.
Un scénario envisageable par tous.
Mais en tout cas, ils ont bien négocié leur départ, mieux que d'autres.
Mais ouais,
ça paye, quoi.
Ce qui est intéressant, c'est vraiment ces joueurs qui se réveillent un petit peu. On retrouve de vraies individualités. Farid El-Menali, qui était clairement au placard il y a une ou deux saisons, qui est aujourd'hui... Puis voilà, Diony qui était parti en prêt. On ne le voyait jamais revenir à Angers. Il revient, mais il s'était fait les croisés, voilà. Et puis la très bonne recrue Zinedine Ferrat. Pareil, les défenseurs, on parlait de Yaya Fofana qui bon alterne entre le bon et le moins bon, mais qui fait pas mal de clean sheet. Je crois que il en fait très beaucoup. Il en fait beaucoup à domicile notamment.
Bah on est toujours invaincu.
On est invaincu et il y a pas mal de clean sheet de Yaya Fofana. Alors j'ai l'impression que c'est un peu soit il prend zéro but, soit il en prend quatre ou cinq. Mais bon, non mais voilà. Et puis même sur les défenseurs, on parlait d'Utunji. Pareil, c'est un joueur qui a beaucoup changé par rapport à l'année dernière. Les autres joueurs aussi, Lefort, Bamba ou encore Yann Valéry, c'est tous des joueurs qui se sont mis au niveau. Et puis aussi, je vais créditer aussi, on peut le 11 global avec Lopi qui est une bonne recrue, Abdelli,
Baoya
qui est vraiment exceptionnel, Baoya bien sûr, le très bon niveau de Jean-Mathéo Baoya, et Pierre Capel qui est toujours là et qui est toujours solide, et ça fait plaisir.
Mais ce qui m'impressionne le plus, moi, c'est la dynamique. C'est là qu'on voit que la dynamique, elle est super importante parce que bah les mêmes joueurs du SCO l'année dernière, tu les mets dans le championnat de Ligue 2, ils font pas du tout ce qu'ils font là. Et enfin, t'as l'impression que tout leur réussit. Là, ils ont pas forcément dominé face à Grenoble. C'est même Grenoble qui a dominé. Et ils arrivent à s'en sortir avec un but. Et puis après, ils mettent la baraque. Et puis ça passe, alors que l'année dernière, ça serait pas forcément passé.
C'est intéressant ce que tu dis, parce que vraiment, sur la dynamique, en fait, l'année dernière, on sentait que le SCO, c'était continuellement, les défaites qui entraînaient les défaites, ça. Et là, aujourd'hui, la victoire entraîne la victoire, et aujourd'hui, on a une vraie bonne équipe. Quelqu'un veut rajouter quelque chose?
Pour l'instant, le seul coup dernier qui pourrait arriver, je pense, ça va être la Coupe de France.
Ouais, mais
je pense pas que c'est un objectif promis non plus.
Non, ça parle déjà peut-être de... pas forcément de faire tourner, mais tout cas, tu sens que oui, ça va pas être l'objectif de la saison.
Mmh. Bah, déjà, tu joues Brest, déjà, t'as un peu moins de chances de passer que si tu jouais
ouais, donc,
R2.
Ça, mais...
Donc, on verra évidemment ça pour le SCO. Faustin, point basket.
C'est parti.
On va commencer par l'UFAB.
On va commencer par un club dont on n'a pas l'habitude de parler même. Enfin, moi j'ai l'habitude d'en parler, mais...
Ah non, tu veux commencer par Avrillé ?
Bah ouais, c'est ce qu'il y a de plus... Comment dire ?
Important.
De plus...
attention
On a des partenariats, on va pas dire ça. mais voilà, du coup, Laza Basket qui recevait LMB dans le derby du Maine-et-Loire en National 2 féminine. C'était un match, on a le droit à un super match, extrêmement serré jusqu'au bout, car c'est un lancer franc à 5 secondes de la fin du match qui donne un point d'avance à Laza, qui sera suffisant à faire exploser la salle et donner la victoire sur le score de 72-71. Les Avriers sont désormais deuxièmes avec un bilan de 8 victoires et 3 défaites à la fin de cette phase aller. Fred Cosset, qui était venu il y a de là un mois quasiment maintenant, nous avait confié vouloir toujours être dans un bilan neutre avec autant de victoires que de défaites. Et bah c'est plus que réussi pour cette première moitié de saison où dit tout à l'heure 8 victoires, 3 défaites. Ça ressemble un peu alors, à la montée, à la saison.
Je pense que le coach n'aimerait pas que je dise ça, mais on y croit à la montée ou pas
franchement.
Deuxième place. Ouais. Il y a un leader, c'est les ambitions Girondines.
Ouais, c'est
je crois
ça,
qu'ils
c'est
sont,
elles ont 10 victoires.
Elles ont qu'une seule défaite.
Ouais, 9 victoires, une défaite. 10 victoires, une défaite. Ouais,
c'est ça. Et, mais bon. Ouais. C'est la première place qui est...
Il me semble, première place, c'est montée direct.
Parce qu'il y a 4 poules, donc c'est compliqué.
Ouais, voilà. Ça, mais il doit y avoir.
Il y a des playoffs ou pas?
J'imagine quand même.
Ok.
Parce que sinon ce serait
c'est assez compliqué à trouver ces règlements dès qu'on descend dans la division.
Voilà. Mais en tout cas, dans je sais pas comment dire, mais dans la manière dont se déroule la saison, ça ressemble à la saison de N3 pour la montée.
Aïe, attention.
Au début, la montée était pas dans les têtes. Et finalement, la saison se déroule bien.
Non, on verra.
On verra ce qui va se passer.
Mais là, en plus, c'est une victoire d'un point. Donc après, c'est... Je pense que le club et l'équipe veulent se concentrer avant tout sur match après match.
Oui, j'imagine.
Et après, l'appétit est en mangeant, j'ai envie de dire.
Voilà, c'est ça. Mais il y aura aussi peut-être des problèmes pour la montée au niveau financier, etc.
On verra ça.
Voilà.
On verra ça. On s'enflamme pas.
C'est tout à fait.
Faustin, donc tu vas nous parler aussi de basket féminin avec l'UFAB, les résultats.
Ouais, l'UFAB, grosse victoire aussi pour elle contre Charleville-Mézières sur le score de 99-61. On n'attendait pas du tout un aussi gros écart pour ce match. Et ben, ça permet aux Angevines de remonter à la 7e place, ce qui les met aussi en confiance pour demain parce qu'elles jouent contre l'équipe polonaise de Wielkopolski pour les 6e de finale de Coupe d'Europe. Pour info, cette équipe polonaise est première du championnat polonais. Okay. Donc a priori, ça risque d'être un sacré morceau quand même. Mais les Angevines ont les capacités pour le faire. Elles ont fini 2e de leur poule au premier tour en Coupe d'Europe. Donc à la même place que les Angevines. Hein. C'est faisable. C'est un match aller-retour. C'est système qu'on n'aime pas trop, je trouve. Avec justement, il n'y a que 2 matchs. C'est pas celui qui gagne le plus de matchs qui le remporte.
C'est cumul.
En fait, à partir du moment où tu prends un retard important, derrière, c'est quasiment en bas.
J'ai peut-être une stat qui est fausse, mais depuis qu'on a reçu Marius Blanchard dans l'émission, est-ce qu'on serait pas à 100% de victoire pour l'UFAB?
Galatasaray.
En tout cas, c'est...
Galatasaray, non?
Ouais, je crois qu'il y a
c'était après
Galatasaray, c'était...
Non, je crois qu'il y avait l'aller-retour. Ah, hein.
C'était avant.
Ouais,
c'était la semaine d'avant. Ouais.
Donc, on est peut-être pas loin de ça. Tu me retrouves la stade, Faustin?
Je suis en train de te la retrouver.
Pour l'instant...
Il y a 2 semaines.
Comme ça, également un petit point sur Lens-Séville.
Ça gagne le dernier match en Europe, ça gagne derrière. Ouais,
3 matchs, 3 victoires.
C'est ça.
Constanta, Roche-Vendée et Charleville. Et pas des petites victoires.
Ah non, vraiment des très belles victoires.
Porte chance.
À noter, on suit en direct également le match entre Lens et Séville. Et actuellement, pénalty pour Séville, c'est Sergio Ramos qui va le tirer. On continue avec le AB.
Ouais, le AB, nouvelle défaite pour eux en Pro B. Ils ont été défaits cette fois à Rouen sur le score de 103-88. Ça fait 2 défaites d'affilée après 2 victoires d'affilée. Sachant qu'avant, il y avait encore une série de 5 défaites d'affilée.
Et oui.
Ça se passe pas super bien pour les Angevins. Mais bon, c'est en soi, ils sont, il y a pas mal d'équipes quand même qui sont dans leur cas. Avec, okay. Là, ils sont 3 victoires, 8 défaites, il me semble. Il y a pas mal, ils sont, il y a 3 équipes à ce niveau-là. Il y en a 2 autres en dessous. Donc, bon, c'est le bas du championnat est assez compact quand même.
Assez serré.
Voilà. Même si en haut, il y a, c'est notamment La Rochelle. Avec Mathéo Leray, l'ancien Choletais, qui font des merveilles, qui sont premiers et qui dominent largement le championnat.
Très bien. Et puis on termine par Cholet Basket.
Ouais, voilà. Là aussi, grosse victoire pour Cholet. C'était en Ligue des Champions contre Darou Safaka, 97-86. S'ils gagnent leur prochain match contre Tenerife, ce sera mardi prochain. Ils sont sûrs de finir premier de leur groupe et de se qualifier donc pour les 16e de finale. Entre temps, s'ils finissent deuxième, il y aura ce qu'on appelle un play-in, ce sera où ils affronteront donc le deuxième de la poule qui sera soit le troisième de la poule qui sera soit Darou Safaka, soit le club de Riga en fonction du résultat du prochain match les opposant. Et ce sera un meilleur des trois pour départager les deux équipes,
okay,
avec l'avantage du terrain pour le deuxième qui sera donc Cholet. Voilà. Donc si c'est a priori ça pourrait le faire, je pense, pour passer en huitième. Le match contre Tenerife, ça va être compliqué. Mais en cas de play-in, elles ont battu les deux équipes 2 fois pour Darou Safaka, 1 seule fois pour Riga, mais ça devrait le faire quand même à mon avis. Après, ils ont perdu contre Bourg-en-Bresse en Betclic Elite sur le score de 88-78. C'est leur 7e défaite d'affilée pour les Choletais,
ah oui,
qui avaient pourtant bien démarré la saison avec ils étaient au début en 6 victoires, 2 défaites. Et là, ils sont maintenant en 6 victoires, 9 défaites.
7 défaites d'affilée. Ah oui,
c'est vraiment pas beau à voir. J'espère qu'ils vont vite se reprendre. Ils nous ont pas habitués à ça ces dernières
années. Ah bah c'est sûr. Bah écoute, merci Faustin pour ce petit point basket. On t'écoutera tout à l'heure pour parler un petit peu de NBA.
Tout à fait.
Évidemment.
Et arrêt de coup de Samba.
Arrêt de Samba sur le penalty.
Penalty arrêté. Alors, est-ce qu'il va être retiré? On ne sait pas. Bon, on vous redira ça. Pendant ce temps-là, on va faire un point sur le tennis avec la semaine dernière, non loin d'ici, cette 3e édition de l'Open P2I à l'Arena Loire de Trélazé. Alors, toujours organisé par Nicolas Mahut, légende du tennis angevin. Et cette fois, contrairement aux années précédentes, les têtes d'affiche françaises n'auront pas déçu, respectivement tête de série numéro 2 et numéro 8, Clara Burel et Alizé Cornet figuraient parmi les favorites au titre de ce tournoi WTA 125. Burel revenait à l'Arena pour la première fois depuis sa blessure de l'an passé qui l'avait contraint d'abandonner la compétition. L'ancienne pensionnaire de l'Angers Tennis Club était quasiment à domicile pour ce tournoi qu'elle avait coché évidemment dans son calendrier depuis longtemps. Et l'histoire est encore plus belle puisque la jeune française l'a emporté dimanche en finale contre sa compatriote Chloé Paquet en 3-7. Après avoir perdu la première manche 6-3, Clara Burel se réveilla dans les deuxième et troisième sets pour l'emporter. Finalement 3-6, 6-4, 6-2. La native de Rennes remporte son deuxième tournoi de la saison après Montpellier et grimpe ainsi à la 60e place au classement WTA. Voilà pour le tennis. Mais est-ce que vous avez eu l'occasion d'aller à l'Arena Loire pour l'Open PD?
Pas du tout.
Non, pas du tout.
Non.
En tout cas, voilà, je sais pas si des auditeurs ont pu y aller, mais en tout cas, c'est vrai que ça fait plaisir. Ce qui, moi, je trouve, tranche avec les années précédentes, c'est justement les bonnes performances françaises, contrairement aux années précédentes où il n'y avait pas eu de françaises en demi-finale. Donc, c'est vraiment une bonne nouvelle pour, et puis surtout Clara Burel qui est à domicile. Donc, c'était assez exceptionnel. Je pense que l'ambiance devait être très, très sympa, du côté de Trélazé. Alors, messieurs, je vous ai vu un petit peu vous agiter, sur vos téléphones, puisque, apparemment, le penalty a été retiré.
Oui, alors qu'il n'y a pas lieu au départ.
Inscrit par Sergio Ramos.
Bah, en fait, c'est que Samba n'a pas les pieds sur la ligne de, au moment du tir, et c'est interdit. Donc, il est retiré. C'est encore plus de désavantages pour les goals. Déjà que c'est compliqué d'arrêter un penalty.
Enfin,
je trouve que c'est vraiment dur pour les goals.
C'est surtout que derrière, il y a but, mais le but, il est tigeur. Le pied haut de Ramos sur Samba.
Un partout.
Alors qu'il a le ballon qui est dans la main. Là, il est en train de se faire soigner. C'est un peu bizarre, quoi. Enfin, en termes de décision, quoi.
Un partout entre Lens et Séville. Si on rappelle que si Lens perd, Lens ne sera pas européen pour le printemps prochain. Alors que s'il y a nul ou qu'il gagne, ils vont ils vont aller en Europa League. On va maintenant parler des Ducs d'Angers. Les Ducs d'Angers qui ont enchaîné deux victoires cette semaine après une série de défaites. Vous en avez sûrement parlé la semaine dernière. Et surtout cette élimination en Coupe de France. Donc deux victoires. Mardi, c'était face à Chamonix. Une revanche victorieuse 2-1. Et puis vendredi, c'était un déplacement à Briançon. Les Ducs vainqueurs 3-1. Il y aura une trêve hivernale jusqu'au 22 décembre prochain. Et un match de reprise qui les attend du côté de Cergy Pontoise.
Ça peut être houleux.
Ouais, peut-être.
Ouais, le match de début de saison de préparation, il avait été tendu. Donc
on verra ça pour ce match entre Cergy et les Ducs d'Angers. On va parler maintenant un peu de handball avec le SCO qui recevait Sarrebourg, une équipe de bas de tableau. C'était vendredi soir au Hara. Un match très très serré hein, tout au long des 60 minutes. Pour vous dire, les Angevins menaient de 2 à 5 minutes de la fin du match. Mais finalement, ce sont les joueurs de Sarrebourg qui l'ont emporté. 25-24. À noter du côté Angevin, la bonne performance de Corentin Beau, qui a inscrit 6 buts dans la rencontre et meilleur buteur côté Angevin. Au niveau du classement, le SCO est 8e à 4 points de la zone rouge avant de recevoir le leader Tremblay qui n'a connu aucune défaite cette saison. Et ce sera donc vendredi soir au Arras. Si vous voulez pousser un petit peu le SCO et peut-être assister à un exploit, eh bien ça se passe donc à la salle du Hara vendredi à 20h30. Voilà pour les actualités locales. On va passer maintenant à la pause musicale. On va s'écouter Usher avec son titre Hier, un classique, j'ai envie de vous dire. Mais Cédric, est-ce que tu sais pourquoi je mets ce son, cette musique, en tout cas cet artiste? Non, tu ne sais pas.
Alors,
je vois que tu es
le Hier pour moi.
C'est pas le Hier. L'indice, c'est pas le Hier, c'est le.
Ça aurait été LA Knight, WWE, mais.
Non, c'est. Yoka, à mon avis, il y a un rapport, non?
Non, c'est parce qu'en fait, il va faire le Super Bowl.
Ah.
Donc.
Oui, c'est oui.
Donc, ça va être intéressant. De toute façon, c'est un événement qu'on suit un petit peu ici à Génération Sport.
On peut pas avoir un super mi-temps toutes les ans.
Ah, un peu dubitatif sur ce choix.
Ouais, Usher pour ça et puis un peu sa carrière compliquée. Ouais, c'est quasiment
oui,
sûr.
C'est
un peu.
Bon, on s'écoute tout de suite Usher et son titre Yeah et on revient juste après.
Cause I conspicuous and round. These women all on the prowl. If you hold the head steady, I'ma melt the cow. And forget about game, I'ma spit the truth. I won't stop till I get them in they birthday suit. So give me the rhythm and it'll be off with they clothes. Then bend over to the front and touch your toes. I left the Jag and I took the rolls. If they ain't cutting, then I put them on foot patrol. How you like me now when my pinky's valued over 300,000? Let's drink, you the one to please. Ludacris filled cups like double D. Me and us, what's more when we leave them dead? We want a lady in the street, but a freak in a bed that say,
Usher et son titre Yed sur Radio G. Vous êtes toujours donc sur le 101.5 FM ou bien sur internet www.radio-g.fr et ou bien sur DAB+, évidemment, pour ceux qui nous écoutent sur ce format. On va tout de suite reprendre avec les actualités internationales, avec donc toujours Faustin, Clément et Cédric qui m'accompagnent. On va parler foot avec donc toujours en fil rouge ce match entre Lens et Séville. Il reste 2 minutes 30 dans le temps réglementaire. Lens qui a subi un petit peu et qui va devoir arracher donc cette qualif pour l'Europa League. Avant d'avoir ce résultat final, on va revenir sur les matchs de Ligue 1 de ce week-end, justement avec les Lensois qui ont fait 0-0 contre Montpellier. Samedi, c'est Monaco qui s'est imposé sur la pelouse de Rennes 2-1. Paris l'a emporté lors d'un match, on va dire, assez terne, 2-1 contre Nantes. Nice l'a emporté sur le même score contre Reims le dimanche à 13h. Dans le multiplex de 15h, on a eu ce match nul entre Clermont et Lille, 0-0. Metz s'est incliné à domicile contre Brest. Et enfin, Strasbourg a arraché la victoire 2-1 contre Le Havre. Et puis à 17h. Le match du 7h dimanche, un exploit, j'ai envie de dire, un truc qui n'arrive pas souvent en ce moment, c'est la victoire de Lyon. Et oui, Lyon 3-0 contre Toulouse, qui permet aux Lyonnais de remonter à la dernière place. Ensuite,
en tout cas, la page de la Ligue 1 sur Facebook, ils se sont enflammés. Hein.
Qu'est-ce qu'ils ont fait?
Gros dessin pour.
Ils avaient des visuels très de la Gazette. Ouais. La saison.
La Gazette en mode César.
Général, surtout. Général, la Gazette.
Fallait bien qu'ils sortent leur. Ils avaient préparé depuis le début de la saison qu'ils avaient fait mettre.
Et une célébration magnifique, je sais pas si vous avez vu sur son premier ou deuxième but où il essaye de glisser sur les genoux.
et puis surtout Lopez qui célèbre pendant que le joueur a repris quand il a raté son penalty qu'il a provoqué lui-même. Bref, j'ai beaucoup de choses à dire sur Lyon, mais à chaque fois je me tais parce que ça peut durer.
En tout cas, ce qu'on sait, c'est que pas de nouvel entraîneur pour l'instant.
Non, ouais, Pierre Sage va continuer jusqu'à la 17e journée avec ses matchs contre Monaco et contre Nantes.
Faut qu'il continue.
Et puis le soir, c'est Marseille qui s'est imposé à Lorient 4-2, une très belle première mi-temps des Marseillais qui remonte un petit peu au classement.
Ah, puisqu'il y avait eu dans la foulée mercredi.
Oui,
il y avait eu le Lyon aussi Marseille.
Ah oui.
Exactement,
qui était à rejouer.
J'ai pas forcément envie d'en parler, mais. Oui, 3-0, victoire de Marseille.
Non, mais qui au final, c'est bien passé.
Pour le coup, oui, forcément, il n'y avait pas de supporters lyonnais, donc il n'y a pas de problème. Bref, en tout cas, voilà pour les résultats de Ligue 1. Le PSG qui est évidemment toujours leader devant Nice et Monaco qui suivent juste derrière. Et puis évidemment, en fin de peloton, nous avons l'Olympique lyonnais et Clermont qui sont juste à la toute fin. On va parler maintenant de Ligue des Champions, toujours un partout évidemment suit. Alors 7 minutes de temps additionnel entre ce match entre Lens et Séville. Ce soir, il y a aussi un autre beau match, Manchester United qui joue contre le Bayern Munich. Et puis Manchester United qui n'a plus son destin en main, qui joue sa survie. Alors, pas le meilleur adversaire pour jouer sa survie, puisque voilà, c'est le Bayern. Tout simplement, ils peuvent se qualifier, mais il faudra aussi un nul entre Copenhague et Galatasaray. Et puis sinon, ils seront probablement éliminés s'il y a un vainqueur dans ce match. Demain, un gros choc, et puis surtout un choc décisif entre le PSG et Dortmund. Un match qui sent la poudre, puisque les Parisiens ne sont virtuellement pas qualifiés, il me semble, ou si peut-être. Mais en tout cas,
que pour l'Europa League.
C'est ça, ils sont troisième pour l'instant, ouais. Hein, actuellement. Donc une victoire.
Non, ils sont deuxième, mais ah bah non, ils sont même pas qualifiés pour l'Europa
League. En gros, une victoire ou au moins prendre un point est nécessaire pour le PSG du côté du Signal Iduna Park. Messieurs, qu'est-ce que vous sentez sur ce match? Déjà, c'est un match hyper important. Est-ce que vous voyez, j'ai envie de dire, une catastrophe, parce que ce serait une catastrophe si le PSG ne se qualifiait pas en huitième de Ligue des Champions. Qu'est-ce que vous sentez? Est-ce que vous êtes pessimiste, optimiste? Dites-moi.
Je la sens, la dinguerie, je sais pas pourquoi.
Tu sens la dinguerie? Ouais. Tu sens demain l'équipe qui titre
Dortmund, même s'ils finissent premier du groupe, ils vont aller chercher la victoire. Ouais, ils vont pas faire tourner là-dessus, surtout face à Paris.
Oui, bah après, c'est à Paris d'être
meilleur. Non, bah oui, c'est ça.
C'est, voilà.
Donc, tu sens la dinguerie.
parce que je suis même pas sûr qu'il y ait un match nul.
Si, bah en fait, même s'ils perdent, ils peuvent monter, ils peuvent être qualifiés si Newcastle et Milan ils font nul. En gros, oui, il faut qu'il y ait un vainqueur entre le match Newcastle-Milan pour que le PSG ne soit pas qualifié.
En fait, le PSG, a priori, n'a pas son destin entre ses mains.
Si, s'il gagne.
Oui, ouais. S'il gagne, pardon. S'il gagne, ils sont même d'ailleurs premiers.
Bah, ils sont sûrs d'être premiers.
Parce qu'en fait, s'il gagne, mathématiquement, ils passent devant Dortmund. Donc voilà, ça va être un match intéressant. Les gars, qu'est-ce que vous en pronostic? Oui, non, c'est ça. Actuellement, ils sont deuxième. C'est bien ce que je disais. Oui.
J'ai un peu peur quand même. Même si Dortmund, ils sont pas en forme en Bundesliga, ils sont que cinquième. Voilà, ils prennent des gros stalls des fois quand même. Mais je sais pas. Je sens qu'il y a un truc. J'ai un feeling.
Vous êtes pas optimiste.
J'ai des mauvaises ondes. D'habitude, j'aime bien être optimiste, mais là, je sais pas.
Peuvent faire une Bayern.
Une quoi?
Une Bayern.
C'est-à-dire se
prendre une grosse déroustée en championnat et derrière un tout misé.
Ah bah on sait pas, c'est possible, hein, tout est possible, mais franchement, moi qui ai l'habitude d'être optimiste, là j'ai peur.
T'as peur. Clément?
Moi j'ai hâte de voir le match en tout cas. Après, qu'est-ce que ça va donner? C'est le PSG, on peut pas savoir.
C'est ça, c'est imprévisible.
En fait, c'est soit
surtout celui de cette année.
Je pense que c'est soit il gère le match et il s'impose tranquillement 2-0, soit le match va partir en n'importe quoi et je sens
ça
un
peut être
coup
une très belle soirée
à la dernière minute.
Ça peut être une très très belle soirée de football en tout cas dans tous les cas.
Oui, c'est sûr. Je pense qu'on va se régaler dans tous les cas.
Et évidemment. Sinon, dans les autres matchs de demain, on n'a pas forcément de gros chocs, à part le match entre l'Atlético de Madrid et la Lazio, avec cette première place qui doit se disputer entre ces deux équipes. Et puis, sinon, le Real qui jouera contre... ça, c'est ce soir, pardon. C'est ce soir, il joue contre l'Union Berlin. Mais du coup, on a quand même un beau match entre Newcastle et l'AC Milan demain. Le Barça qui se déplace à Anvers. Donc, je sais pas si c'est vraiment une belle affiche. Mais voilà pour cette ce dernière. Soir, en tout cas, il y aura du suspense puisque, à la fin, on saura les qualifiés pour la Ligue des Champions et avec le tirage au sort qui est prévu lundi à midi.
Il y a le prono de Faustin sur Copenhague qui se joue.
Ah oui, tu avais pronostiqué Copenhague.
J'ai mis Copenhague et le Bayern. Et là, Copenhague, s'il gagne, c'est fait, quoi.
Putain, c'est incroyable. C'est fou. Faut que je ressorte tes extraits dans l'émission. Ouais, voilà. Ben, bravo.
Ah, c'est déjà auto-cité.
T'as bien raison. Bon, voilà pour le foot. Alors, pour le match à Lens, il reste deux minutes.
C'est long.
On subit.
Il y a 7 minutes de prolongation.
On ne coupera pas Faustin pendant qu'il parle, mais Faustin va démarrer son petit mot sur la NBA et après on donnera le résultat. Je te laisse la main, Faustin.
Voilà, 17.
17.
17. Je vais commencer par ça.
T'as 17 ans, c'est ça?
C'est ça. Bientôt 18. Mais non, c'est surtout le nombre de défaites d'affilée des Spurs cette saison. On parlait des 7 défaites de Cholet. Bah, c'est rien, hein, comparé aux 17 des Spurs, là. C'est le record de la franchise. Mais bon, pour une fois, Victor Wembanyama, il a fini meilleur scoreur de son équipe. Ça veut peut-être dire qu'ils ont enfin compris qu'il va falloir mieux le servir pour marquer des points et gagner des matchs. Enfin, on espère en tout cas. Sinon, la grosse actu au NBA, c'était le Final Four du In-Season Tournament à Las Vegas qui a honnêtement été une grande réussite. J'étais peut-être un peu pessimiste vis-à-vis de ça. Et ça s'est très bien passé avec des matchs en jeu. Voilà, avec des quarts de finale, demi-finale et finale. On avait des ambiances dignes des playoffs. C'était super, les salles en ébullition, etc. Et en plus du très beau jeu proposé par les équipes. Alors la finale opposait les Lakers de LeBron James aux Pacers de Tyrese Haliburton. Et c'est au bout d'une masterclass que les Lakers remportent le tout premier in-season tournament de l'histoire. Et c'est évidemment l'infatigable LeBron James qui finit MVP du tournoi. Il possède désormais tous les titres de MVP possibles, à savoir MVP de la saison régulière, MVP des finales, MVP du All-Star Game et maintenant MVP du in-season tournament.
Ils ont même dû créer une compétition pour qu'il ait un autre titre.
Ouais, c'est ça. Ils lui ont vraiment tout donné, une carrière quasiment sans faute, j'ai envie de dire. Oui. La seule chose qui lui manque peut-être, c'est de pouvoir jouer avec son fils. Son fils qui a d'ailleurs joué son premier match universitaire sous les couleurs de USC. C'était un vrai événement, qu'elle avait été, je le rappelle, victime d'un arrêt cardiaque lors d'un entraînement cet été. Donc outre les stats de son match, c'était le simple fait de le voir jouer qui nous a fait chaud au cœur et qui nous a donné... je trouve que donner le sourire, bien voilà, et surtout donner l'envie de le voir jouer en NBA avec son père.
Parce que c'est surtout impressionnant, c'est que logiquement, après un arrêt cardiaque,
ouais, c'est dire de prendre,
de revenir tout court. Oui, ouais, le sport généralement, ouais,
on avait vu Christian Eriksen,
mais
qui avait mis du temps.
Tu tires quasiment une croix dessus, quoi. Enfin,
ouais. Ouais, en tout cas, une très belle histoire. Bah voilà. Écoute, merci Faustin pour ce point billet. Et je vois que mes camarades ont été studieux.
ça s'est excité autour de moi.
C'est ça. Ils ont été studieux. Ils ne t'ont pas coupé la parole. Merci parce que il s'est passé des choses pendant que tu parlais. Le but de Lens. Et oui, il y a un ancien Angevin.
Très beau but.
Un ancien Angevin qui a marqué. C'est Angelo Fulgini, bien servi par Sotoka qui avait récupéré la balle.
Perte au milieu du terrain.
Exactement.
C'est tout de suite relancé. Il devance les deux défenseurs.
Et le but, la finition,
il gagne son face à face, quoi.
D'Angelo Fulgini, qui marque du coup son deuxième but en Ligue des Champions, si je dis pas de bêtises.
Bah, à Séville aussi.
Après le coup franc à Séville. Voilà un petit peu normalement donc la qualif de Lens entérinée. On va parler un peu de handball puisque c'est actuellement le mondial féminin qui se déroule en Norvège et les Françaises tout simplement sont invaincues depuis le début de la compétition. Elles ont été invaincues en phase de poule malgré un premier match compliqué contre l'Angola. Ensuite en tour principal, elles ont également été impériales sur les deux premiers matchs. Le troisième a été plus compliqué, victoire à l'arraché contre littéralement les favorites à la victoire finale, la Norvège, et puis surtout le pays qui reçoit. Donc voilà, c'est une très très belle victoire, 24-23 des Françaises qui nous ont fait vibrer. Alors évidemment, celle qu'on va attendre le plus, c'est cette victoire en finale, mais on va pas se précipiter trop vite, même si les Françaises se sont facilité la tâche en se qualifiant d'ores et déjà pour les demi-finales en battant la République tchèque cet après-midi 33-22, victoire assez tranquille qui a peut-être mis un peu de temps avant de se dessiner, avec un écart qui restait aux alentours des 3-4 buts, et puis sur la fin de match les Françaises qui ont déroulé. Donc la semaine prochaine, j'espère vous parler du hand en vous parlant du fait qu'on est championne du monde. Mais bon, on va pas se porter la poisse. Un petit mot également donc de l'équipe de France masculine qui va.
Et tu vois qui de l'autre côté du coup en finale?
La Norvège.
Norvège, ouais, pour le
match très clairement, en fait, la Norvège. Bah, je crois d'accord. que c'est les championnes du monde en titre.
Oui.
On les a affrontées en finale à chaque fois et.
Ouais, c'est un peu le duel, comme au biathlon.
Exactement, comme au biathlon. Exactement. Et donc, pour vous parler un petit peu également du hand masculin, l'équipe de France, donc, on a la liste de l'équipe de France pour l'Euro qui débutera en janvier prochain. Et il n'y a pas d'absent. Voilà, contrairement aux autres compétitions, tout le monde est là, tout le monde est prévu. Notamment Nicolas Karabatic qui disputera une de ses dernières grandes compétitions avec les Bleus. Cédric, je te propose de passer tout de suite, puisque le temps presse, de passer tout de suite à ce combat de boxe entre Tony Yoka et alors j'ai le nom de famille mais j'ai pas le prénom, Mary.
Attends, je vais te retrouver ça.
Mais voilà, ce combat perdu par le Français contre le Belge, donc Riyad Mehri. C'est vrai que c'était pas beau à voir, j'ai envie de dire. Le Français qui a été dominé globalement. Enfin, c'était serré, mais je veux dire, on s'attendait peut-être pas à ce qu'il se fasse autant dominé. Déjà, tout son dit bon, peut-être parce que donc on dit donc une défaite sur décision des juges.
Des juges,
pardon.
Juges, ouais.
Toi, qu'en penses-tu de cette décision. Est-elle injuste? Est-elle pas beaucoup injuste?
Enfin, ah non, mais elle est logique.
Elle est logique pour toi, ouais.
Si on se rappelle, déjà, son dernier combat, il avait rien trop montré dans sa boxe. Enfin, il cherche pas à aller mettre des coups. Il, de temps en temps, il se réveille, il met des petits coups, passe ici par là. Enfin, alors qu'il a quand même une taille, une allonge, normalement, qui fait que. Mais on voit que en 3 matchs d'affilée, il perd. Et c'est pour la même chose. C'est un poids lourd. Un poids lourd, généralement, c'est de l'engagement. Et du coup, ce qui est, ça prouve qu'une chose, c'est que ces belles victoires qu'il a eues pour la conquête, la fameuse conquête organisée plus ou moins par Canal+, hein, faut pas se leurrer, tout le marketing qui a été fait au-dessus, et ben ça prouve une chose, c'est que les premiers adversaires de Yoka, en tout cas pour cette fameuse conquête, ils étaient peut-être pas au bon niveau. Et que c'était tellement facile pour lui que voilà, il a mis des KO, il a remporté au point 2. Mais qu'il n'est pas prêt pour être champion poids lourd, et il n'est pas prêt d'aller affronter les tops, quoi.
Et d'ailleurs.
Et là, clairement, c'est, enfin.
Donc, justement, c'est la question qui vient juste après. Quel avenir pour Tony Yoka qui a pu organiser ses combats grâce à un contrat Canal+, il en restera d'ailleurs un.
Ouais.
Comment il va pouvoir essayer de se relancer alors qu'il est à 3 défaites? De suite.
Changement d'entraîneur sur ce match-là.
Changement d'entraîneur, mais voilà, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées pour Tony Yoka. On sent que le soufflet retombe un peu. C'est-à-dire que on a un Tony Yoka qui était plein d'ambition après son titre à Rio, son titre olympique, et qui là tout de suite s'était lancé dans cette aventure donc de la conquête grâce notamment aussi à Canal qui produisait ses combats. Et du coup aujourd'hui, voilà, à l'époque il voulait aller boxer avec les Joshua, etc. Qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui, Cédric? Est-ce que potentiellement, il a 31 ans, je crois.
Ouais, c'est ça.
Qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui de sa carrière? Est-ce que c'est pas une fin de carrière après
Ah, mais pour moi, il est quasiment fini pour aller chercher un titre.
En pro, en tout cas.
En pro, oui. Il est, enfin, si t'arrives pas à remonter après 2 défaites. Surtout que là, il y avait moyen. Enfin, il a changé de méthode d'entraînement. Il restait plus simple parce qu'avant c'était aussi le folklore. On va s'entraîner aux États-Unis parce que c'est soi-disant le meilleur endroit. Il a été en Angleterre pour être plus proche de la famille, tout ça. Au final, ben, on voit la même boxe. Ouais. Alors après, derrière, tu vois, il y a aussi sa mauvaise foi qui commence à ressortir.
Parce que on l'a vu sur l'après-match.
Lui, il n'arrivait pas à comprendre pourquoi il n'a pas victoire. T'as juste à voir. Allez, 2 actions du match. Tu comprends que le Belge était au-dessus.
Eh ben non, mais
l'entraîneur aussi qui fait en gros, ah bah je découvre la boxe en France, je comprends pas pourquoi ils le mettent en dessous. Non mec, tu le vois comme nous, toi, ton gars il boxe pas.
Bah, à un moment moins bien que son adversaire.
Ouais, et encore je le dis, j'avais l'impression qu'il levait les poings de temps en temps, c'est genre ah je me rappelle il faut que je donne un coup, tu vois, c'était un ennui. Dommage parce que le Belge a l'air d'avoir quand même un niveau intéressant.
Moi j'ai trouvé le Belge très bon.
Ouais, il a des choses à proposer, tu vois. Donc, c'est dommage pour le Belge, j'ai envie de dire. Pour une fois, on va pas jouer les franches chouillards. Yoka, il aurait été très bon j'ai envie de dire comédien, parce que voilà, il avait quand même annoncé ça en mode un peu à la Rocky, ça va se finir en un round.
Bah oui, vous verrez au premier round.
On a vu que le 10e, t'étais toujours pas capable de mettre des coups, donc non, pour moi ça y est, c'est fini, hein, l'histoire du titre, on oublie, continue ta carrière tranquillou, gagne quelques combats et prends ta retraite, et puis essaye un peu, j'ai envie de dire, de sauver ton palmarès et ton histoire, quoi.
Ouais. Bon, on verra ça pour Tony Yoka. On va terminer sur une autre actu qui a été assez importante puisqu'elle va concerner donc c'était un gros débat, hein, qui agitait pas mal sur ces JO de Paris 2024. La présence ou non des sportifs russes et biélorusses à participer aux Jeux Olympiques de Paris. Ça a été donc annoncé vendredi. C'est le CIO qui a décidé donc d'autoriser les sportifs russes et biélorusses à participer sous bannière neutre, hors épreuve par équipe. Pour l'instant, il y a même 11 athlètes individuels neutres qui sont pour l'instant qualifiés, donc 8 Russes et 3 Biélorusses. Voilà un petit peu. Globalement, voilà, le CIO explique parce que Ils expliquent que les sportifs ne devaient pas payer pour les actions de leur gouvernement. On verra un petit peu ce qui se passe. Qu'est-ce que vous en pensez, messieurs? Est-ce que c'est trop? Est-ce que c'est pas assez? On connaît un peu les positions de chacun parce qu'on en a déjà parlé, mais cette décision du CIO, qu'est-ce que vous en pensez?
Je dirais pas qu'elle est tardive, mais c'est peut-être le dernier délai.
Ouais.
Au moins, voilà, les athlètes qui vont pouvoir, ça va être surtout de toute façon des athlètes en individuel. Ou alors peut-être des équipes, mais
non,
vraiment.
Bah, non, du coup, comme je viens de dire, ce sera que les individuels.
Mais genre des sports comme l'aviron ou T2, des choses comme ça.
Ah oui, à la limite.
Ouais, enfin voilà, c'est
peut-être,
pas.
Peut-être, oui.
Mais au moins, bon, bah, ils vont pouvoir tenter de faire les minimales olympiques pour être sélectionnés. C'est une bonne chose. On l'a toujours dit ici, les athlètes en soi, elles sont victimes de la chose.
Ouais.
Après, c'est comment on gère aussi les autres conflits, tu vois, qu'il y a actuellement.
Ça va être un autre débat épineux.
C'est ça, oui, ouais. Mais c'est.
Alors, j'ai envie de te dire, la Palestine n'est pas encore reconnue par le CIO.
Elle n'a pas une équipe olympique.
En fait, c'est la FIFA qui a reconnu la Palestine.
Ouais.
Et donc la Palestine a une équipe nationale de football. Donc là, pour l'instant, je crois que, en tout cas, rien n'est décidé a priori pour
d'accord, pour j'étais la suite.
Le CIO n'a pas reconnu officiellement la Palestine. Maintenant, c'est la question de.
Il y a ce conflit-là.
Israël,
on pourrait
en fait,
réellement.
C'est la question de
dire voilà, qu'est-ce qu'on fait pour eux.
D'Israël. Ouais. On va pas revenir sur le débat, mais c'est pareil, une guerre que les athlètes israéliens n'ont pas forcément décidé, et puis surtout après qu'il y a des craintes au niveau de la sécurité et sur voilà potentiellement des sifflets ou des choses comme ça qui pourraient un peu perturber la compétition.
Tant que c'est que des sifflets.
Oui, voilà,
c'est surtout ça, mais.
Sinon, par rapport à la Russie, qu'est-ce que vous en pensez, messieurs? Est-ce que il y a pour vous quand même un lien de cause à effet? Parce que il y a un article de l'équipe qui est assez intéressant, qui explique un peu ça, mais qui dit en gros qu'il y a quand même pas mal encore d'athlètes qui sont liés à Poutine ou en tout cas au gouvernement, etc.
Ouais, ça, je pense que le CIO, ils ont dû mener un peu des enquêtes sur des déclarations d'athlètes, sur ce qu'ils ont pu faire, dire, là où ils sont, s'ils ont des relations avec le gouvernement, etc. J'espère en tout cas que les athlètes sélectionnés, je pense, ont toujours été, se sont toujours prononcés contre les agissements de leur pays et de leur gouvernement, et que du coup, c'est parfaitement légitime de les faire participer sous bannière neutre, parce que faut pas les pénaliser pour des choses qui n'ont absolument pas cautionné et qui avec lesquelles ils n'ont rien à voir, quoi.
Il faut pas oublier, il y a pro-Poutine et pro-Poutine. C'est-à-dire que t'en as qui juste pour éviter d'avoir des soucis. Alors, vont soutenir, mais qui sont.
Il y a certains, et c'est intéressant parce que ce que tu dis, parce que en fait, justement, il y a des liens qui peuvent être faits juste avec l'État ou avec Poutine. Dans l'article de l'équipe, justement, qui est assez intéressant, je vais les citer. Certains d'entre eux ont participé à des meetings de Vladimir Poutine, mais surtout beaucoup sont membres de corps de l'État qui sont impliqués directement dans la guerre contre l'Ukraine, comme par exemple donc le ministère de l'Intérieur, le ministère de la Défense, ou appartiennent à des clubs comme le Dynamo, qui est lié au FSB, service de renseignement russe, mais aussi il y a les sportifs qui sont soutenus par Gazprom, hein, vous connaissez peut-être, oui. Le géant gazier qui est une entreprise surtout qui finance l'effort de guerre russe. Il faut également noter que sur les 71 médailles obtenues par la Russie au JO de Tokyo, 45 ont été remportées par des sportifs affiliés au club des ministères impliqués dans la guerre, et les trois quarts de ces médaillés sortaient du cadre de neutralité par rapport à la guerre définie par le CIO. Voilà un petit peu, ça annonce un petit peu la couleur. Globalement, est-ce que c'est une décision qui, pour vous, dernier tour de table, on va dire scandaleuse ou pas?
Moi, juste ce qui m'inquiète, c'est
qu'on voit bien qu'on peut pas faire au cas par cas.
Oui, qu'il y ait pas des affaires de dopage qu'on apprenne par la suite, et ça.
C'est ça qui est ça aussi un peu. Trop,
ouais.
Enfin, voilà quoi.
on peut pas trop savoir pour l'instant et j'ai pas envie de, enfin par exemple, imaginons je suis un peu chauvin, mais un Français finit deuxième derrière un Russe ou dans le cas des JO d'une personne sous barrière neutre
et qui on apprend, hein, Russe, hein.
Oui bah oui Russe mais
Russe ou Biélorusse Russe
oui et qu'on apprend qu'il y a eu des affaires de dopage bah
peut-être qu'ils ont peut-être pas été aussi bien sanctionnés par rapport à ça ouais. Déjà de base
après oui il y a toujours eu ce poteau rose pour le dopage avec les Russes enfin les athlètes du pays de l'Est en général ouais. Ça a toujours été compliqué de savoir s'ils ont du temps d'avance ou du temps en retard
ouais. Et puis surtout on verra aussi à quelle proportion les athlètes russes seront présents dans ces JO parce que ça se trouve il y aura peut-être beaucoup moins d'athlètes que prévu. On verra si c'est parce que et comme tu le disais ça va aussi influer sur les victoires, les médailles et que ça change beaucoup de choses les médailles.
Ah, bien sûr.
Et si la France notamment, alors tu parlais d'être chauvin, veut plein de médailles, effectivement elle a intérêt à ce que
puis il n'y ait pas de Russes. Et des athlètes ukrainiennes aussi vont.
Bah c'est ça. Ah, comment oui, les athlètes bah d'ailleurs l'Ukraine qui a déjà un petit peu réagi et qui est contre s'oppose à cette neutralité, enfin la présence des athlètes russes et biélorusses.
C'est logique.
Donc le ce sera à suivre et est-ce que voilà, ça va entraîner des boycotts. On a déjà vu des affaires comme ça un petit peu je crois en escrime. Ou en tennis, donc on suivra ça évidemment
ça,
de près.
Avoir une politique adaptée à ce qui va se passer.
Exactement. Voilà un petit peu pour cette émission de Génération Sport. Je vous remercie messieurs d'avoir été avec moi pour l'animer. Je remercie nos auditeurs de nous avoir écoutés depuis 20h sur Radio G. On va vous laisser avec le générique, puis surtout avec la suite des programmes. Tout de suite, c'est Imaginaire qui arrive juste après nous. Et puis, on se retrouve donc la semaine prochaine pour une nouvelle émission de Génération Sport.
Just wanna tell you. 101.5 FM. www.radio-g.fr